Bonjour à chacun. Pour moi, c'est une joie ce matin de pouvoir partager, même à distance, ce petit moment avec vous. Bien évidemment, en toute simplicité, hein, avec les moyens qui sont les nôtres, afin de nourrir cette foi commune. Les circonstances exceptionnelles que nous sommes en train de vivre dans notre monde m'ont encouragé à vous proposer une petite série pour ce mois de mars. Une série sur quelques attributs de Dieu. Sur ce que Dieu est, afin de nous rappeler que c'est lui qui est au centre du monde dans lequel nous vivons. Pour cela, je voudrais nous inviter à ouvrir nos Bibles et à prendre avec moi le psaume 90. Alors, je sais que vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas votre Bible sous la main. Alors, tout a un début. Vous proposez ce moment filmé, c'est une première pour notre Église. Chacun de nous avons un début, une naissance. Tout ce qui existe autour de nous a un début. Alors, si mes sources sont fiables, c'est en 1926 que la première retransmission publique à la télévision en direct a été faite à Londres. C'est en 83 qu'on retient la date de la naissance du concept d'Internet, par lequel ce matin nous pouvons être en relation, en contact les uns avec les autres. Ce virus appelé coronavirus, qui se répand aujourd'hui dans notre pays, a un début. Il a été identifié comme un nouveau virus en janvier 2020 de cette année. Tout ce qui existe autour de nous a un début. De l'autre, la parole de Dieu nous dit de façon claire que Dieu n'a pas eu de début et n'a pas eu de fin. Je voudrais donc nous arrêter sur cette réalité que Dieu est éternel. Le but de cette petite série n'est pas de nous donner simplement des explications sur les attributs de Dieu. Le but, c'est de nous demander quelle différence cela fait. Pourquoi c'est important de savoir que Dieu est éternel? Et peut-être que cela aura une saveur toute particulière dans ce contexte international pour nous aujourd'hui. Pourquoi cet attribut de Dieu nous pousserait à l'adorer comme on l'a fait tout à l'heure avec quelques chants. Alors entrons dans le sujet. Alors comment définir l'éternité? C'est une grande question, n'est-ce pas? En tout cas comme quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. La bonne nouvelle, ce n'est pas... On n'a pas besoin de comprendre, d'essayer de comprendre ce matin comment c'est possible cette éternité. La Bible affirme que Dieu est éternel de façon claire. Le Dieu qui était, qui est et qui sera. Et cela devrait faire une différence énorme dans nos vies. Je voudrais donc, avec ce psaume 90, parler de ce sujet de l'éternité de Dieu, parce qu'il est clairement au centre de ce passage. Regardez déjà avec moi le verset 2. Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ce verset est la clé de lecture pour tout ce chapitre. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ce psaume est un des rares psaumes, qui n'a pas été écrit par David, ni par les fils de Corée, mais par Moïse. Alors, avec un peu d'imagination, je vous propose de nous replacer dans ce contexte de vie de Moïse. Ce temps où le peuple d'Israël a tourné en rond dans le désert depuis des années, parce qu'un jour, ils n'ont pas su faire confiance aux promesses de Dieu. Et vous pouvez voir ça dans Nombre 13 et 14, par exemple. Ils tourneront peut-être depuis 40 ans. Et j'imagine peut-être une fois par semaine, tous les matins ou en fin de journée, un responsable qui se présente à la tente de Moïse avec la liste des dernières victimes parmi le peuple. Des morts, encore des morts, toujours des morts, depuis tant d'années. Ce désert est devenu le cimetière pour une génération entière de peuples qui devaient passer. Une génération. Et ce jour-là, Moïse épanche son cœur devant Dieu. Et vous allez voir que ce psaume met en contraste la brièveté de la vie, la fragilité de l'homme et l'éternité de Dieu. Et Moïse nous donne tout un certain nombre de vérités que je vous propose de voir et je voudrais en relever trois ce matin avec vous. Alors lisez avec moi les six premiers versets. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes ne soient nées, et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous voyons dans ces premiers versets que, puisque Dieu est éternel, il est un refuge efficace pour son peuple. Et c'est mon premier point, un refuge éternel. Moïse, en quelques versets, a fait des allers-retours entre l'éternité de Dieu et notre fragilité. Au verset 1 et 2, on découvre que Dieu est un refuge pour son peuple. Pourquoi ? Parce que avant que le monde soit né, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Au verset 3, on découvre que Dieu fait retourner l'homme à la poussière. Nous découvrons que Dieu est celui qui fait, est celui qui détient, pardon, la vie de l'homme. Ici, sans fin, tu retournes à la poussière. Mais aussi sa naissance, autrement dit. Dieu est celui qui nous tire de la poussière et c'est lui qui décide quand c'est le moment d'y retourner. La naissance et la mort des hommes sont entre ses mains de ce Dieu éternel. Comment peut-il faire cela ? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est éternel, nous dit Moïse. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Dieu a le recul nécessaire. Il a fait son travail comme 1000 ans sont comme une journée pour nous. C'est une affirmation positive. Cette affirmation qu'il a le pouvoir d'ôter la vie, on peut la voir comme négative. Mais réfléchissons un petit peu. Et je voudrais pour cela nous présenter une illustration que nous avons probablement tous vécue en nous promenant le dimanche après-midi avec de petits enfants. Et au cours de notre balade, surgit brusquement un chien, un petit chien, excité dans la propriété voisine. Que fait votre enfant ? Il bondit. Surpris, il hurle et vient courir, se réfugier dans vos bras, suite à cette peur de ce petit chien. Mais quand le parent prend son enfant dans les bras, le soulève, et que doucement, avec des paroles de réconfort, calme son enfant, cet enfant sait que ça va aller. L'enfant sait que tout va bien se passer parce qu'il est entre les bras de son parent. Il y a bien des aspects sur la brièveté de l'homme que nous ne maîtrisons pas. On peut réfléchir sur ces choses-là. Mais Dieu, il était là depuis des milliers d'années, avant que je sois. Et ça fait peur pour Moïse et nous. Cette brièveté de la vie, cette fragilité de la vie, comme un souffle. Et dans la vie, plus on avance, plus on a conscience sur notre propre vieillissement. Cette épidémie, il y a quelques semaines, était bien loin de chez nous. Maintenant, elle est là, devant votre porte, notre porte, dans nos familles. Il serait si facile d'être saisi par la peur, de voir le coronavirus partout où nous regardons, sur le clavier de nos ordinateurs, dans l'air que nous respirons, à chaque contact physique, à chaque coin de rue. Cette crise mondiale nous rappelle combien nous sommes fragiles, combien nous sommes faibles. Même si la plupart d'entre nous, on est confiant face à la réalité de l'agressivité de ce virus. Mais imaginons un virus plus agressif, qui toucherait plus grand nombre. Cette situation nous rappelle quelque chose que nous oublions si facilement. Les êtres humains sont fragiles et faibles. D'où les paroles de Moïse, verset 6, « Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. » Nous ne contrôlons pas grand-chose, mes amis. Oui, on peut contrôler une partie de notre vie. Nous pouvons contrôler le chauffage, la sécurité de nos maisons à distance. On peut transférer de l'argent à travers le monde en un clic. On peut choisir tel achat plutôt qu'un autre. Mais cette sensation de contrôle est une illusion, une bulle que cette épidémie a révélée. On n'est pas vraiment au contrôle de quelque chose. Mais ce que dit Moïse ici, c'est que Dieu est plus grand que tout cela. Dieu était avant que le monde ne soit créé, et il sera là après. Dieu sera toujours là après que cette épidémie soit passée. Dieu sera là quand le monde sera renouvelé. Dieu nous amène dans ce monde, et quand c'est le moment, il nous enlève de ce monde. Dieu est pour nous un refuge éternel, parce qu'il est au-dessus de toutes ces choses, y compris celles qui peuvent nous faire peur. Alors si nous pouvons dire qu'il est un refuge dans toutes les situations, être dans ses bras de réconfort, c'est parce qu'il était celui qui était bien avant que ces choses n'apparaissent, ces choses qui nous effrayent. Donc voilà cette première vérité. Dieu est un refuge éternel pour son peuple. Je propose de voir la deuxième vérité que nous propose Moïse dans la suite du texte. Et c'est une vérité un peu plus dure à accepter. C'est la colère éternelle de Dieu. Lisez avec moi la suite à partir du verset 7. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Et si nous sommes vigoureux, à 90 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et en ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Ces quelques lignes, on devrait les mettre en parallèle avec un autre attribut de Dieu. C'est la sainteté de Dieu, sa pureté, sa mise à part. Dieu aime le bien, mais Dieu déteste le mal. Cette sainteté de Dieu, son amour pour le bien, commence bien avant le jour où l'homme a décidé de s'écarter de Dieu, d'être hostile à lui, d'être libre de choisir ce qui est bien ou mal. Avant cette désobéissance d'Adam, Dieu aimait le bien. Et sa colère, sa haine contre le mal, contre le péché, est aussi éternelle, d'éternité en éternité. Alors l'éternité de Dieu doit nous faire prendre conscience aussi de son horreur, de nos fautes, de notre péché, et Moïse le comprend ici. Et les termes, vous l'avez entendu, employés par Moïse, sont durs. L'effet de ta colère, ta fureur, ton courroux, la force de ta colère. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure, nous dit encore Moïse. La Bible nous parle, c'est vrai, de cette colère qui s'abat sur les hommes et qui s'abattra aussi sur les hommes qui auront refusé de le reconnaître comme Dieu, qui seront jetés loin de sa présence. La Bible parle de l'enfer. La Bible parle d'un étang de feu et de soufre dans Apocalypse 20. La Bible nous parle d'un feu qui ne s'éteint pas, Marc 9, d'un lieu de pleurs, de grincements de dents, Matthieu 22, les ténèbres du dehors, la peine d'un feu éternel. Ça, c'est le côté terrible de l'éternité de Dieu, la colère de Dieu dans l'éternité. Et l'idée qui domine tous ces textes que je viens de citer est que l'enfer consiste à une séparation éternelle avec Dieu. Paul dira aux Thessaloniciens, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Alors j'imagine, comme vous, vous avez déjà fait tous à un moment donné la queue. Vous savez, ces queues qui n'en finissent pas aux caisses de supermarché, ou dans un service administratif, ou chez le médecin, ou dans un bouchon, où rien n'avance, où le temps semble long, interminable, et ça nous énerve. Quand on s'ennuie, et les désagréments sont réels quand on fait la queue. Mes amis, la séparation avec Dieu est terrible. Ici, Moïse se concentre sur cette colère de Dieu sur la terre, pour son peuple. Ce Dieu qui met devant nos yeux nos fautes à sa lumière. Mes amis, on est tous égaux face à cela. Le péché, personne n'y échappe. Une véritable épidémie, pandémique. Alors, j'ose vous poser cette question, quel est ton espoir ? Parce que cette colère contre le mal va continuer dans l'éternité. La mort, notre mort physique, n'est pas la fin de cette colère éternelle. On sait que la propagation du coronavirus va faire des dégâts. Mais on nous dit aussi que cela va ralentir. C'est une question de semaines. Oui, on attend, en retenant notre souffle, ce pic de la courbe. Nous savons que devant, plus loin, il devrait y avoir une fin à cet épisode. Mais être aujourd'hui dedans, ce n'est pas évident. Tout comme Moïse a fait le constat de voir cette sentence de Dieu sur sa génération. Oui, mes amis, il y a de la place aujourd'hui pour penser, pour prier à celles et ceux qui sont justement en train de lutter contre cette maladie. Il y a de la place pour prier pour nos autorités, pour ce personnel médical qui font leur possible pour soigner tous ces gens. Ceux qui rejettent Dieu et qui ne l'aiment pas jusqu'au bout de leur souffle ne l'aimeront jamais. Apocalypse nous dit cela, dans d'autres termes, ils blasphèment le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. La réalité de l'éternité de Dieu devrait nous bousculer, nous bouleverser. Dieu aime le bien, mais il déteste le mal de toute éternité. Comprendre cette éternité, comme Moïse, devrait nous aider à craindre cette colère dans cette vie, bien évidemment, mais aussi dans cette vie à venir, de cette mort éternelle. D'où, relisez avec moi ce verset 12 de Moïse, « Enseigne-nous à compter nos jours ». Afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Cette sagesse de reconnaître notre besoin d'un Dieu éternel. Comprendre cette colère éternelle devrait nous pousser à nous réfugier dans le seul endroit refuge de cette colère, le seul espoir éternel. Et c'est la troisième portion de ce texte, son amour. Son amour est éternel. Je vous propose de relire à partir du verset 12. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur vous, soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Son amour, mes amis, est éternel. Si on reste simplement dans le contexte que nous sommes en train de vivre, d'ailleurs, comme tout être humain, on connaît parfois la fatigue, on connaît la maladie, on connaît les doutes, on connaît nos inquiétudes, on a des moments bof. Je reconnais qu'on est bien souvent en train de subir la vie sur cette terre. Et réfléchir que Dieu est éternel, que Dieu vit bien plus longtemps que nous, mais lui, il n'a jamais été malade. Il n'a jamais été stressé. Il n'a jamais ressenti ce besoin de vacances. Il n'a jamais ressenti ce besoin d'un temps off. Ce qu'il était avant, il le sera demain et dans l'avenir. Et Moïse le considère ici. Il s'attend donc à une intervention de Dieu parce que son amour est éternel. Reviens, Éternel. Moïse nous le présente comme une bouffée d'air frais pour le peuple qui est fatigué, qui est à bout dans ce désert. Verset 14, hein, « Rassasie-nous dès le matin de ta bonté, que ton œuvre apparaisse. » C'est vrai, ce matin, on pourrait se questionner si Dieu, dans cette éternité, il est en dehors du temps. Est-il dans le temps ou en dehors? Mais la question n'est pas là. La Bible affirme qu'il comprend ce que souffrent les hommes. Il nous comprend. Il comprend ce que nous subissons aujourd'hui parce qu'il est devenu homme comme nous. Il sait ce que cela veut dire. Vivre dans un monde subissant le temps parce qu'il est devenu homme comme nous. Il s'est incarné. Il est descendu dans un monde infecté par le péché, un monde infecté par la rébellion de Dieu vis-à-vis de la rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu. Il a respiré le même air que nous. Il a mangé la même nourriture que nous. Ses derniers jours ont été brutaux. Nos derniers jours peuvent être brutaux. Et pour certains, aujourd'hui, l'est. Mais en même temps, réfléchir sur ce passage de Dieu éternel a été pour moi réconfortant. Dans ce contexte pesant, peut-être inédit, que nous traversons, suffit d'écouter notre président qui a soulevé cela comme la plus grande crise sociale, sanitaire qu'ait connue notre pays depuis un siècle. Et que dire dans d'autres régions du monde ? Mais on aurait pu parler aussi de toutes ces choses qui nous tracassent du quotidien, ces petits inconvénients que nous subissons. Annuler nos cultes, c'est pas comme d'habitude. Ne n'avoir pas la possibilité de nous voir, de nous serrer, de nous prendre dans les bras, ça peut nous gêner. Cette crainte de voir nos proches plus fragiles touchés. Les tracas que nous pouvons avoir avec un proche, un enfant rebelle. Parfois on est tracassé par la fièvre d'un enfant. On est tracassé par les questions de matériel. Est-ce que je dois changer maintenant ou pas de voiture ? Des collègues de travail qui sont pénibles. Pantouflard. On arrive tous à des moments où les petits problèmes ou de grands problèmes s'empilent et nous semblent gigantesques. Une montagne et qu'on aspire à la suite, à passer pour enfin se reposer. Et Jésus, mes amis, sait ce que c'est. Même s'il a déjà vécu dans le passé, qu'il sait l'avenir, il a aussi passé des journées très longues. Il s'est aussi fatigué face à la foule qui venait de toutes parts. Il a aussi fait l'expérience d'un jour qui commence et qui se termine. Il a fait l'expérience d'attendre quelque chose de bon. Par exemple, la première rencontre avec ses disciples, les retrouvailles après la résurrection. Il sait aussi attendre, imaginer quelque chose de terrible à venir. Imaginez-vous, lorsqu'il a été arrêté, il savait que son procès allait être faussé, qu'on allait injustement l'accuser. Imaginez-vous lorsqu'on l'a attaché, qu'on l'a conduit sur le chemin qui allait le conduire à la croix. Il savait qu'il allait souffrir des heures. Mes amis, Jésus est mort en étant isolé, en étant exclu de son peuple, visiblement loin de son Père éternel, sur une croix. Tout cela pour que nous puissions, pour qu'il puisse nous donner sa vie. S'il n'était que simplement éternel, on pourrait se plaindre qu'il ne connaît pas nos journées difficiles. Mais la parole nous dit qu'il a vécu comme un homme, qu'il sait compatir à nos faiblesses, qu'il a subi notre mort et son angoisse parce qu'il savait ce qu'il l'attendait. Hébreux nous dit qu'il a souffert la croix pour la joie qui lui était réservée. Il a souffert cette colère éternelle, ce point 2 que nous avais évoqué tout à l'heure. Il a souffert la colère éternelle parce qu'il savait ce qui l'attendait après sa mort, après sa victoire sur la mort, le renouvellement de toutes choses, la récompense de sa souffrance. Il a souffert la colère éternelle pour partager l'éternité avec nous, mes amis, pour nous guérir et nous donner la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle. Sur Jésus est retombée la punition de notre rébellion. Il l'a fait pour que la justice de Dieu soit pourvue. Il l'a fait pour notre salut, pour notre éternité, pour apaiser la colère éternelle de Dieu sur notre péché. Et Jésus va beaucoup plus loin que ce que Moïse demande ici. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Relisez avec moi le verset 15. « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. » Moïse demande à Dieu autant de jours de joie de restauration que de jours compliqués et difficiles. Mais Jésus va beaucoup plus loin. Il a pris sa souffrance pour que celle-ci soit ôtée à tout jamais. C'est la deuxième raison pour laquelle l'éternité de Dieu est une bonne nouvelle pour nous. Si nous avons foi en lui, nous savons comme lui ce qui nous attend aussi. C'est l'espérance de l'évangile, c'est l'espérance du chrétien, du salut. Soit il y a le désespoir d'une sanction éternelle, soit il y a la joie éternelle qui ne se terminera jamais. C'est extraordinaire. Quand on souffre, on a l'impression que ce moment ne se termine jamais. On a l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Mais vous avez déjà remarqué combien l'opposé est vrai. Quand on s'amuse, nos vacances, elles sont toujours trop courtes. Même si vous prenez plusieurs semaines, ça passe trop vite. La retraite, c'est tellement loin. Mais une fois la retraite arrivée, les années filent. Mes amis, ce ne sera pas ainsi dans le paradis. Dans la présence de Dieu, il y aura toujours la joie. La joie augmentera sans fin parce que l'on saura qu'il n'y a pas de fin. Dans l'éternité, aucune limite pour comprendre et découvrir Dieu éternel. Au paradis, nous pourrons toujours voir ce pourquoi nous sommes créés, comme Dieu l'a prévu. Aucune limite au plaisir que nous trouverons dans sa présence. Le temps passera. Oui, le temps passera dans l'éternité, mais il y en aura encore et encore et encore. Jésus répond de façon extraordinaire à cette prière de Moïse, de manière infinie, même beaucoup mieux que ce que Moïse aurait pu s'attendre. Moïse sait, Moïse comprend la colère de Dieu, il la voit dans le désert, mais il comprend aussi l'amour éternel de Dieu. Il comprend aussi la brièveté de sa vie. Alors il supplie Dieu de l'aider à saisir ce temps dont il dispose pour l'utiliser correctement, avec sagesse. Mes amis, l'éternité de Dieu devrait nous faire réaliser combien cette vie terrestre est courte. L'éternité comparée au nombre d'années que nous avons de cette vie, hein, Moïse parle de 70 ans, et pour les plus vigoureux de 80 ans, un temps qui passe en un clin d'œil. Alors quel type de personne nous voudrions être ? Nous voulons être dans ce temps limité que Dieu nous confie. Et que deviendrons-nous quand ce temps sera terminé ? Quand ces jours seront terminés ? L'actualité nous rattrape. Si rapidement certains sont touchés par le virus et placés dans le coma. L'éternité de Dieu, mes amis, devrait nous pousser à nous souvenir que de l'éternité qu'il veut nous donner. Soit une éternité de tourment, où la colère de Dieu retombe sur nous, loin de sa présence, soit une éternité de joie et de repos. Cette éternité devrait nous encourager à courir sans cesse, nous réfugier auprès de ce Sauveur pour trouver sa justice, sa paix en lui. Si vous ne connaissez pas Jésus, courez vers lui. Placez votre confiance en lui. Repentez-vous, reconnaissez que sa colère est sur vous. Acceptez ce qu'il a fait pour vous, que sa colère a été ôtée pour l'éternité. Parce qu'il sera peut-être bientôt trop tard. Ça passe tellement vite, mes amis. L'éternité de Dieu devrait nous pousser à partager l'évangile avec tout le monde autour de nous pour qu'il puisse se trouver du bon côté de l'éternité avec Christ. La connaissance de l'éternité avec lui devrait nous remplir d'une telle reconnaissance. Puisqu'il est éternel, puisqu'il est un refuge éternel, qu'il a fait l'expérience comme nous, il sait ce que cela veut dire d'attendre. Il est celui qui est capable de compatir comme personne d'autre, mes amis, à nos faiblesses. Il est ce seul refuge, car il était le seul qui était et qui est avant toutes ces choses et qui peuvent nous effrayer aujourd'hui. Il était celui qui était avant toutes ces choses qui nous effraient aujourd'hui, et il le sera après. Il est le seul refuge éternel que nous avons. Alors plaçons-nous entre les mains de celui qui était là avant et qui sera là encore après que toutes ces choses soient passées. Que le Seigneur d'éternité vous visite, chacun là où vous êtes, et que sa paix éternelle, sa tendresse, dont, comme nous parle Moïse, soit sur vous. C'est mon souhait. Oui, nous pouvons ce matin faire appel à notre Père éternel. Prions pour les autorités qui dirigent notre pays et nos villes. Prions pour les équipes médicales soignant les malades. Prions pour les hommes, les femmes, les enfants qui ont été infectés. Prions pour les personnes qui ont peur de quitter leur maison. Prions pour ceux qui vivent dans les zones infectées. Priez pour ceux qui sont à haut risque, d'autres maladies pour les personnes âgées. Prions que le Seigneur nous protège et nous garde. Prions pour qu'il manifeste sa compassion envers nous. Prions aussi pour que le Seigneur Jésus revienne, afin qu'il nous amène vers la nouvelle création qu'il a préparée pour nous, un endroit sans larmes, sans mort, sans deuil ni douleur, nous dit Apocalypse 21, verset 4. Et je voudrais terminer, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Seigneur, quel privilège de pouvoir nous rappeler que tu es Dieu éternel. Que tu es ce Dieu qui ne change pas, qui était dans le passé, qui est présent et qui est dans l'avenir. Merci parce que, comme nous l'a rappelé Moïse, tu es un refuge éternel. Tu es un refuge parce que tu connais nos vies. Seigneur, mais ce texte nous rappelle aussi que ta colère est éternelle. Tu ne passeras pas sur cette rébellion vis-à-vis de toi. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles aussi que tu as un amour éternel. Et pour cela, tu l'as incarné en Jésus-Christ. Tu es venu nous chercher. Tu es venu vivre ce que nous étions incapables de vivre, une vie qui t'était agréable. Seigneur, tu as porté sur toi la colère éternelle qui nous était destinée. Seigneur, quel privilège de pouvoir nous reposer sur ce salut. Nous voulons nous réjouir de cette œuvre éternelle. Seigneur, alors je voudrais prier pour chacun d'entre nous. Tu connais nos souffrances, nos difficultés du présent. Et Seigneur, et tu veux nous visiter parce que tu es ce Dieu éternel, ce Dieu qui ne change pas, ce Dieu qui est présent. Seigneur, merci pour l'Évangile, pour cette bonne nouvelle, pour cette espérance que nous pouvons partager. Seigneur, je te prie pour ce temps dans lequel nous sommes confrontés, Seigneur, que nous puissions vivre en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, d'espérance. Une espérance qui est placée dans ce Dieu éternel, qui est placée en Jésus-Christ, dans cette grâce qui est offerte à chaque être humain. Seigneur, nous vous prier pour ceux qui souffrent, qui sont alités, qui sont peut-être à leur dernier souffle. Seigneur, mais nous savons qu'il y a un choix qui doit être fait aujourd'hui pour l'éternité. Seigneur, je voudrais te prier pour que chacun d'entre nous puissions être source de bénédiction pour les uns et les autres. Seigneur, nous te prions dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.